Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec maître Jean-Yves Leborgne, avocat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Coralie Dubost, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche de l'Hérault, bienvenue à vous. Nous sommes avec Ludovic Taureau, bonsoir.
Bonsoir.
Maire UDI de Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. Et nous sommes avec Céline Hervieux, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire nationale du Parti Socialiste. Beaucoup de sujets dans l'actualité. On va évoquer dans un instant le pass sanitaire. Le président Macron, on l'a entendu dans le journal, évoque l'allègement de ce pass sanitaire d'ici quelques semaines, notamment dans les zones où il y a moins de contamination, et c'est tant mieux, c'est-à-dire que c'est le signe que l'épidémie est en train de décroître. Mais d'abord, on est dans un jour symbolique, puisque nous fêtons les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Ce matin, Robert Badinter était présent à l'Assemblée nationale, dans un colloque international, pour justement évoquer cette date symbolique et pour revenir sur l'abolition universelle qu'il souhaite et qu'il appelle de ses voeux. On verra aussi que Éric Zemmour, interrogé sur la question, s'est dit lui favorable philosophiquement, selon ses termes, à la peine de mort. Faut-il relancer ce débat? C'est notre question du soir. On va commencer par écouter Robert Badinter, si vous le voulez bien. 1981, cette voix qui nous a tant marqué.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution.
Voilà pour Robert Badinter. Donc, il y a 40 ans, en 1981, dans ce discours qui est devenu historique. On va évidemment parler de cela. On va écouter peut-être Éric Zemmour, qui était interrogé ce matin par nos confrères de RMC, qui lui s'est donc dit philosophiquement pour la peine de mort.
Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas?
Je n'hésite pas. Je suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant,
vous êtes favorable à la peine de mort, donc.
Philosophiquement, oui. Maintenant, vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort encore aujourd'hui. On l'a abolie alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était le sommet de la hiérarchie des peines. Mais si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités.
Coralie Dubost, députée de La République En Marche. Évidemment, ça vous fait bondir, ces propos d'Éric Zemmour?
Cela m'attriste. Je trouve que c'est baisser le niveau de notre avancée civilisationnelle, culturelle, de manière globale. Je voulais, si vous me le permettez, citer également Badinter dans une formule qu'il avait employée et que je trouve absolument juste et qui est toujours valable aujourd'hui. Il nous disait « Demain, la justice ne sera plus une justice qui tue. » Ceux qui croient en la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que par d'autres passions. Je pense qu'il avait éminemment raison, que cela est toujours valable aujourd'hui. Et je trouve par ailleurs que dans la façon dont Éric Zemmour propose de façon tout à fait polémique et simplement par provocation, j'imagine, le rétablissement ce matin de la peine de mort, il cafouille. Il ne le justifie pas, ni de façon sociétale, ni de façon argumentée, ni de façon philosophique. Et quand on lui pose la question de comment il va le mettre en œuvre, il dira « Oh, pas tout de suite, il y a d'autres priorités, mais en même temps, c'est fondamental. » Enfin, il n'est pas sérieux. Mm-hmm. Et je trouve que jouer avec de tels sujets, qui sont véritablement des révolutions culturelles...
Et qui divisent la population française aussi.
Bien sûr. Mais combien de droits fondamentaux ont été conquis par des hommes politiques courageux, des hommes d'État qui ont su à un moment donné
et qui allaient à guider
et élever le débat.
Absolument.
Notamment, je pense à quasiment la totalité du droit des femmes, pardonnez-moi, mais sans des hommes et des femmes de courage qui ont pris des décisions contre une opinion publique de l'époque, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et ce ne sont pas les seuls sujets, je pense à l'esclavage et à beaucoup d'autres sujets de ce type. Comment osent-ils, en ce jour si symbolique, manipuler un sujet si sérieux pour servir sa petite personne?
Il est questionné sur ce sujet par un journaliste, en même temps, il faut aussi lui reconnaître cela. Maître Leborgne, vous qui êtes avocat.
Il dit d'abord que c'est philosophiquement et symboliquement que
il est favorable à la peine de mort. Qu'on me pardonne. La peine de mort n'est pas seulement, loin de là, un problème philosophique et moins encore symbolique. C'est une décision sanglante. C'est une manière de tuer des hommes. J'ai le privilège, enfin je ne suis pas sûr que ce soit un privilège, mais d'avoir déjà été avocat à l'époque de 1981. J'ai plaidé dans des affaires où on requérait la peine de mort. Elle n'a pas été prononcée, mais je ne sais pas si aujourd'hui encore on peut savoir ce que représente cette demande de condamnation à mort. De telle sorte qu'au fond, un tel propos ne peut que me choquer. J'écoute, je dois le dire, avec un certain intérêt intellectuel, ce que dit Éric Zemmour, qui ne me paraît pas être un interlocuteur négligeable. Mais là, franchement, non. Et je souscris bien sûr à ce que vous avez dit, Madame la députée, à propos des propos que vous citiez de Robert Badinter. Vous savez, à l'époque, avec effectivement le courage politique qu'avait eu le président Mitterrand, il faut le dire, d'aller à rebours de l'opinion publique qui n'était pas favorable. Mais nous étions les uns et les autres la gorge serrée quand on entendait ce pas franchi vers une humanité et vers une justice qui ne pouvait pas se voir reprocher cette barbarie. Vous savez, on parle beaucoup de barbarie en ce moment, notamment avec le procès du Bataclan, bien entendu. Mais l'honneur d'une démocratie, c'est précisément de répondre à la barbarie avec fermeté, mais en excluant, elle, les chemins de l'autre.
Céline Hervieux, du Parti Socialiste.
Oui, écoutez, ma foi, malheureusement, je ne suis pas étonnée par cette prise de position. Une fois de plus, Éric Zemmour tente de dicter l'agenda politique et médiatique, donc en introduisant des sujets extrêmement polémiques. Évidemment, l'abolition de la peine de mort est une avancée majeure dans notre démocratie. Et c'est justement la signature d'un État et d'une République noble et haute que celle qui a justement refusé d'organiser la mise à mort des êtres humains et qui a pensé aussi sa société comme une société qui est capable aussi de redonner une chance à l'être humain, y compris ceux qui ont commis le pire. Et donc évidemment, une fois de plus, voilà, il a traversé, il a franchi une limite, et à chaque fois qu'on a l'impression qu'il a été trop loin et qu'il va redescendre, non, il est capable encore de continuer, et franchement, c'est vraiment effrayant pour la République française.
Ludovic Toro,
oui, c'est quand même le seul des candidats ou des futurs candidats qui parle de ça. Aujourd'hui, vous parlez en effet de philosophiquement, ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que c'est une question aussi dans la population actuelle, c'est-à-dire suite à tous les événements, le Bataclan, si vous avez pu voir ce qui s'est passé, cet enseignant décapité, les gens disent il n'a pas le droit de vivre, c'est un réflexe. Mm-hmm. Mais à Badinter, beaucoup ne le connaissent. Ils ne le connaissent pas, Badinter. Et donc l'histoire, en fait, c'est comme toutes les avancées qu'on a pu voir avec Simone Veil, il faut toujours répéter pourquoi. Mm-hmm. Rien n'est définitif dans la vie. Pourquoi on a arrêté la peine de mort ? Il y a des raisons, d'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, lui, il s'en sert clairement parce que, voilà, il faut qu'il prenne des points. Les autres n'ont pas été sur ce chemin. Donc, il va prendre des points, puisque certains pensent ça dans notre population, d'accord ? Qu'il faut rétablir par rapport à ce qu'ils ont pu voir à la télé. Voilà, donc il faut y répondre et le contrer. Et surtout pas dire que ça n'existe pas. Lui expliquer, en effet, Badinter, ça me paraît très bien. Et tous ensemble, tous les partis confondus, lui dire non, monsieur. La peine de mort en France, ça n'existera pas.
Et ce débat ne sera pas rouvert.
Juridiquement, voilà. D'ailleurs, c'est à peu près impossible. Les engagements internationaux de la France font qu'on ne pourrait pas rétablir la peine de mort, sauf à devenir, je dirais, le pays noir de l'Europe.
Même des conventions internationales, d'ailleurs.
Sortir des conventions internationales, parmi les autres absurdités qu'il a pu, à mon sens, démontrer pour la France.
C'est qu'on sort quand même d'un débat dans notre pays sur la justice, sur la question, justement, de l'incompressibilité des peines.
On est encore en plein dedans, d'ailleurs.
Absolument, on n'est pas sorti. Qu'on continue à constater de la récidive et qu'un certain nombre de Français ne le supportent plus. Donc, il faut qu'on soit capable aussi en face de répondre par un discours sur justement l'investissement, sur la réinsertion, sur la façon dont on va réfléchir aussi à la question des peines cumulées, par exemple, qui peuvent s'appliquer dans d'autres pays. Et effectivement, aujourd'hui, on a une difficulté à ce niveau-là. Donc, ça vaut le coup, effectivement, qu'on puisse réfléchir et répondre avec ces arguments-là aussi.
On fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant sur Europe 1. On continuera à évoquer ce sujet. On écoutera aussi la colère des victimes qui étaient présentes, évidemment, aujourd'hui au procès des attentats de novembre 2015. Pas seulement le Bataclan, il y a eu les terrasses et le Stade de France. Après les propos de Salah Abdeslam, qui froidement a assumé son geste en disant qu'il n'y avait rien de personnel dans tout cela. A tout de suite dans Punchline.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Maître Jean-Yves Le Borgne, avec Coralie Dubos, députée de La République En Marche de l'Hérault, avec Ludovic Taureau, maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis, et Céline Hervieux, secrétaire nationale du Parti Socialiste. On évoquait la question de la peine de mort. Il y a aussi la question de l'incompressibilité des peines qui sont prononcées. Et c'est ça aussi qui choque certains Français. C'est-à-dire qu'on condamne à la perpétuité, monsieur le maire, et puis finalement, 15 ans après, voire même un peu moins...
Pas 15, 23.
Allez, 23. Mais parfois, il y en a qui ressortent et qui récidivent à leur sortie.
C'est ça le problème. D'abord, c'est la rapidité de l'exécution de la peine. Ça. En fait, c'est tout un ensemble qui fait qu'on en arrive là. C'est-à-dire que les peines sont très peu prononcées, parce que je vous rappelle quand même que par rapport à la moyenne européenne, on a 50% moins de juges que les autres pays européens. Donc on juge moins. Mais autre chose... La peine, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est vrai que quand les gens qui ont commis des crimes, alors je ne suis pas là pour juger, mais qui me paraissent, moi, effroyables en tant que juste citoyen, est-ce qu'on peut les libérer à 30 ans alors qu'ils ont pris beaucoup plus initialement? C'est les questions qu'on doit se poser.
La question que vous posez est intéressante, en ce sens que la suppression de la peine de mort, j'ai dit que je m'en réjouissais, bien sûr, mais elle est aussi la suppression de l'élimination sociale. Donc il faudrait peut-être pour certains cas, concevoir une élimination sociale à dimension humaine, pas sanglante, qui protège la société. Mmh. Alors, il y a eu, du temps du président Sarkozy, une mesure, moi, que je ne trouvais pas opportune, mais qui était la rétention de sûreté, c'est-à-dire ce temps de détention qui était postérieur à l'exécution de la peine. Il faut peut-être songer à l'idée qu'un certain nombre d'individus, même libérés, et d'ailleurs surtout libérés, pas jusqu'au bout de la peine, comme les autres, mais soit obligé, le cas échéant, de vivre ailleurs que n'importe où, sans surveillance, dans l'Hexagone.
D'accord. Coralie Dubost,
de la République En Marche. En réalité, la question sous-jacente, c'est, peut-être qu'on n'en parle plus assez dans le débat public, et donc merci de poser la question, c'est quelle est la fonction de la peine, en réalité, de la sanction ? Une peine, quand on condamne quelqu'un de façon pénale, il y a d'une part le fait de punir à proprement parler l'acte qui a été commis, et j'insiste sur l'acte et non la personne, souvent il y a une confusion. Au-delà de punir l'acte, il y a protéger la société, bien évidemment, dans ce que vous nommez mise à l'écart social, j'irai peut-être pas jusqu'au terme élimination, mais mise à l'écart pour protéger la société si l'individu est encore dangereux et peut commettre un nouvel acte. Et puis, il y a normalement aussi une fonction éducative, préparer un retour à la vie en société, lorsque cela est possible. Or, nous voyons bien, et je pense sincèrement, j'avais lu un bon bouquin il y a une dizaine d'années là-dessus d'Emmanuel Jafflin sur l'éloge de la punition sous toutes ses formes. Et la prison est l'un des sujets que nous avons le plus de difficultés de façon paisible dans le débat public en France. Il fait partie de nos sujets tabous. Il y a des choses qui n'ont pas été modifiées depuis le Moyen-Âge, et notamment cette notion d'isolement absolu nécessaire ou d'élimination sociale. Je pense que nous devons quand même réfléchir, et vous preniez tout à l'heure l'exemple des pays européens. Alors, on a renforcé le nombre de magistrats, on a passé le seuil enfin des 9 000. Voilà, donc nous avons bien augmenté le nombre de magistrats. Mais au-delà des magistrats, il faut regarder aussi ce qui se passe en Europe sur leur type de sanctions, leur type de prison. Il y a d'autres formules qui fonctionnent. Il n'y a pas que l'enfermement. Il faut arriver à bien différencier les niveaux de dangerosité, ce qui est un travail très compliqué qui nous amène aussi sur la question de la psychiatrie et de l'expertise judiciaire, de l'expertise psychiatrique auprès du judiciaire, sur laquelle Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux, a fait des annonces ce lundi, à la fois de revalorisation de la rémunération des experts psychiatres devant les tribunaux, qui étaient quand même, il faut le dire, depuis des décennies, pas très bien traités. Donc leur rémunération a été augmentée de 129% pour avoir aussi une qualité de l'expertise, mais aussi de leur formation. Il faut un parcours dédié. Et nous avons rencontré énormément de médecins, de présidents de conseils de l'ordre, de représentants syndicaux qui nous disent « Nous avons besoin finalement de commencer à songer à créer une filière légale dédiée pour l'expertise psychiatrique auprès des tribunaux judiciaires. » Et je pense que ça, ce sont des questions qui sont certes adjacentes, mais qui participent d'un véritable bon fonctionnement de la justice.
Monsieur le maire, attendez, il n'a pas beaucoup parlé. Ludovic Taureau.
Je reviens quand même au nombre de juges, parce que vous pouvez me dire qu'autre part, c'est 11 juges pour 100 000 habitants en France, et dans les autres pays européens, c'est 21 pour 100 000 habitants. Mais je reviens sur la
psychiatrie. Laissez-moi finir.
Je vous dis juste que votre histoire sur la psychiatrie, elle est belle. Vous allez prendre ces psychiatres. Mais il n'y a plus de psychiatres en France. Parlez-moi de psychiatrie, on va en parler pendant des heures ici, il n'y en a pas. Vous allez les prendre là pour les mettre là, et donc ils ne soigneront plus les patients. Il n'y a plus de psychiatres en France. L'accès à la psychiatrie.
Vous avez pas compris.
Si, j'ai très bien compris, madame, que vous mettiez des psychiatres spécialisés pour voir si cette personne elle est ou pas folle. Quand je dis folle, c'est un terme qui existe, la folie.
Irresponsable.
Et voilà, irresponsable. Aujourd'hui, il n'y a plus de psychiatrie en France. Le système est à bas. Donc, on va prendre des psychiatres là, mais il n'y en a plus. Il faut tout repenser. On peut mettre des choses, mais il faut penser s'ils sont là. C'est-à-dire faire des choses, mais sans avoir les moyens, en fait, très clairement, sur le terrain de le faire. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui.
Alors, pardon, juste pour préciser, les psychiatres dont on parle, ils sont déjà experts psychiatres auprès du tribunal.
Mais ils vont pas prendre,
comme vous dites, non, on ne va pas prendre des psychiatres qui seraient libéraux, madame, qui n'auraient pas d'activité auprès des tribunaux pour les enlever à la population et les mettre auprès des tribunaux. Ils sont déjà auprès des tribunaux.
J'ai compris.
Non, laissez-moi terminer mon propos, monsieur. Ils ont eux-mêmes réclamé d'avoir une formation spécialisée, parce que ce n'est pas le même exercice professionnel que de recevoir des patients dans un cabinet et de devoir conseiller sur une affaire pénale
en urgence.
S'il vous
plaît, juste 30 secondes. La moyenne d'âge des psychiatres aujourd'hui est 60 ans, ils passent à la retraite dans quelques années. Vous irez les chercher où ?
Pire que les psychiatres.
Vous irez les chercher où ? Même si c'est cela, il faudra les remplacer à un moment.
On a fait sauter le numerus clausus.
Alors pas tous en même temps, parce qu'on n'y comprend plus rien.
Écoutez, on a fait sauter le numerus clausus depuis qu'on est arrivé.
Ça n'aboutit à absolument rien.
Plus de médecins.
Excusez-moi, je suis médecin, donc je sais de quoi je parle quand même un tout petit peu sur ce plateau, d'accord ? Je vous dis que l'accès à la psychiatrie aujourd'hui en médecine de ville et même en médecine hospitalière est très compliqué. Et que ce que vous faites, c'est bien, mais sachez que dans peu de temps, ces gens iront à la retraite et vous ne pourrez pas les remplacer. C'est ça la problématique, en fait.
On avance, Céline Hervieux du Parti Socialiste.
Beaucoup de spécialités. Dans la prise en charge du santé mentale, notamment les psychologues qui sont à même aussi de réaliser des expertises judiciaires qui peuvent être spécialisées. Voilà, il s'agit de modifier peut-être les statuts pour leur permettre d'intervenir, parce que pour le coup, on a pléthore de jeunes psychologues et de moins jeunes psychologues qui sont formés et qui sont spécialisés sur ces questions judiciaires, donc qui pourraient aussi intervenir.
Une obligation d'expertise psychiatrique et psychologique, de telle sorte que remplacer l'un par l'autre. Mais le vrai problème, c'est de trouver des structures psychiatriques. En fait, c'est au-delà même des psychiatres. Il n'y a pas de lieu de réception. Ce qui fait qu'on confie finalement à la filière criminelle, à la justice, un traitement qui relèverait de la médecine.
En
mais
fait,
bien sûr.
C'est le croisement de la justice et de la santé, véritablement. C'est un croisement.
Ça, Garbesson a suffisamment d'expérience de la vie criminelle, si j'ose dire, pour le savoir.
Mais c'est bien pour ça qu'il a pris le sujet à cœur et qu'il a commencé à intervenir dès ce lundi dans le cadre, justement. Et je pense qu'il faudra le poursuivre dans les états généraux de la justice et que les médecins s'en emparent et viennent nous dire ce qu'ils ont à nous dire.
Renforcer les structures de prise en charge en psychiatrie, ça répond aussi à une petite quand même partie du problème, parce que vous avez des directeurs de prison aujourd'hui qui vous disent qu'ils ont 10 à 15% de leurs détenus qui devraient être normalement internés en psychiatrie. Donc on parle tout le temps de la surpopulation carcérale, etc. Mais déjà posons-nous la question par rapport à cette question dont on traite la santé mentale aussi. On le retrouve dans les circuits, on le retrouve cette problématique dans les circuits de précarité aussi, dans les personnes à la rue. Dans beaucoup de problématiques, on subit ce manque d'investissement depuis des années dans la psychiatrie et le soin en santé mentale en France. Et
Monsieur
Taureau, par exemple, au Parti Socialiste, d'en faire une des grandes causes du quinquennat, que cette question de la santé mentale.
Il y aura plein
d'autres. Ça sera dans le programme du Parti Socialiste.
Tout à fait, ça.
Il y aura des causes sur la santé, on va aller sur tout. Vous allez dire, il n'y aura pas que la psychiatrie, il y a plein de santé qui sont discutées. Vous savez, quand on parlait, par exemple, d'un pédopsie, enfin, nos enfants, mais il n'y a pas de pédopsie. Pour avoir un rendez-vous,
il faut
c'est 6 mois.
Mais
il faut juste que. Je dis ce que vous faites, c'est bien, mais il faut qu'on colle à la réalité. Est-ce qu'on peut répondre à ce que vous demandez ? Aujourd'hui, c'est non. Il n'y a pas de pédopsie, il n'y a pas de psy, les délais sont 3 mois, même en ville. Donc, si vous voulez, ça, c'est dans le meilleur des mondes, et je suis d'accord avec vous. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. On ne pourra pas le faire. Et vous l'avez raison. J'espère qu'après que la Covid s'arrête, si elle s'arrête, d'accord, j'espère qu'on pourra remettre ça en place vraiment et voir avec nos soignants, au-delà de leur vaccination obligatoire, comment les remettre, comment leur faire confiance et les applaudir comme on faisait en début de crise. Parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être de 5% ou les 10% qui ne se font pas se faire vacciner, mais je vous assure que ces 2,5 millions de soignants, ils sont rincés. Et il y a de moins en moins, si vous voulez, quand vous faites un métier comme ça, c'est que vous êtes attiré par ce métier, vous ne faites pas par hasard. Et bien, il y en a de moins en moins qui demandent à le faire. Parce qu'ils voient leur aîné, comment ils sont traités, comment ils vivent tous les jours. Et ça n'attire plus aujourd'hui. C'est une vocation. Et ces vocations, on en aura de moins en moins. Et c'est dommage, parce que pour soigner, il faut aimer. Il faut aimer les personnes. Voilà. Et aujourd'hui, je suis d'accord que ce n'est pas de votre faute. Ça fait des années. Alors, je peux vous dire que là-dessus, j'ai vu évoluer ça depuis 30 ans. Ce n'est pas de votre faute du tout. Mais il faut y répondre un jour ou l'autre.
En un mot, 30 secondes.
Je pense qu'on a une crise des vocations dans beaucoup de secteurs. Alors, j'entends en psychiatrie et dans certains secteurs médicaux. Je travaillais cet après-midi en commission des lois sur un texte aussi concernant la justice et les forces de l'ordre, et dans certaines parties de la police, on a aussi parfois une crise de vocation. Vous avez plusieurs métiers autour de l'État et de l'engagement pour autrui qui aujourd'hui n'ont pas assez appelé. Donc je pense qu'il faut aussi collectivement respecter, féliciter ces métiers comme ils l'étaient il y a une cinquantaine d'années. Enfin, le médecin, l'instit, le policier, le gendarme étaient des personnes éminemment respectées et cela faisait aussi la vocation.
Absolument.
Donc il faut leur restituer leur travail.
On va faire une petite pause et je vous passe la parole dans un instant sur ce sujet. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on évoque avec mes invités la question de la justice à la lumière de ces 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On a évoqué évidemment tout l'appareil judiciaire, la réponse pénale, avec évidemment des avancées mises en avant par Coralie Dubas de La République En Marche. On est avec Céline Hervieux du Parti Socialiste, Maître Le Borgne, avocat Ludovic Thoreau, maire UDI de Coubron. On va écouter l'un des candidats à la présidentielle, Xavier Bertrand, qui était aujourd'hui en meeting. En tout cas, il a fait un discours, c'est pas vraiment un meeting. Il a évoqué la question de la majorité pénale. Il veut ramener l'âge de la majorité pénale à 15 ans. Écoutez-le.
J'acterai aussi le rajeunissement de la délinquance en ramenant la majorité pénale à 15 ans. À cet âge, on encourra la même peine que les adultes et on répondra de ses actes devant un nouveau juge spécialisé, le juge pénal des mineurs. En outre, la justice des mineurs doit passer plus vite. La rapidité de la sanction, c'est l'une des clés de la lutte contre la récidive. C'est pourquoi les mineurs récidivistes de plus de 15 ans pourront désormais être déférés en comparution immédiate. Trop souvent, les délais de jugement sont tels que le délinquant est jugé comme un mineur, alors qu'entre-temps, il est devenu majeur.
Maître Le Borgne, avocat, quel est l'intérêt de cette proposition ?
Il ne me paraît pas bien grand, si vous voulez, sauf à dire plus répressif que moi, tu meurs. Ah, parce que c'est un petit peu la réponse du berger à la bergère au discours du président Macron hier. Bon. Maintenant, cette proposition révolutionnaire de l'abaissement de la majorité pénale me paraît n'avoir pas grand sens. Mais tout simplement parce que les juges apprécieraient même un mineur coupable comme il l'est. C'est-à-dire que si vous comparaissez...
En écartant la
à Dieu ne plaise, Laurence, mais si vous comparaissez et vous risquez 5 ans de prison parce que vous n'avez pas d'excuse de minorité, rien n'empêche un juge de vous donner 2 mois sursis. Donc cette solution n'en est pas une. Je pense que ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de faire en sorte que la réponse pénale, qui n'est pas nécessairement toujours répression, soit aussi une rééducation. Je l'ai dit déjà sur votre plateau, qu'il faut que l'armée, c'était une proposition de Ségolène Royal, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'années, prenne en charge un certain nombre de gens qui ont des failles culturelles et auxquels il faut apprendre ce qu'est la discipline, le respect de l'autre et le respect du monde qui vous entoure.
Coralie Dubost, La République En Marche. La majorité pénale à 15 ans, c'est la surenchère à droite ?
C'est complètement démagogue, c'est totalement démagogue, c'est dépourvu de sens. À ce moment-là, il faudrait, à minima, pour qu'il soit cohérent, qu'il abaisse tout court l'âge de la majorité. Il faudrait leur donner en parallèle certains droits, parce que pour estimer qu'il serait finalement majeur pénalement à 15 ans, et donc il devrait répondre de certains actes, mais que par ailleurs, il ne pourrait pas ouvrir un compte en banque ou faire certaines choses que font d'autres adultes.
Ou voter,
fous. Franchement... il se moque des gens. Il se moque des gens et ça n'a aucune efficacité. Par ailleurs, il annonce des choses qui existent déjà. Donc,
comparution immédiate,
parce
notamment.
Que je me dis qu'il faut absolument quand même qu'on lui adresse des courriers s'il n'arrive pas à suivre l'actualité. Mais il y a eu une réforme du code pénal des mineurs. Et aujourd'hui, vous avez des délais restreints. Ça entre en vigueur à la fin du mois. Nous l'avons voté. Et vous avez désormais des délais restreints, justement, pour que ça aille plus vite.
Et peine.
Mais ils sont séparés de plusieurs mois.
Exactement. Et avec notamment l'intégration de nouvelles peines beaucoup plus éducatives qui permettent de structurer un jeune. Ce qui compte. Mais enfin, quel est son objectif ? L'objectif,
c'est
quoi ?
Ce qui compte, c'est aussi d'avoir des centres d'éducation fermés.
Est-ce que c'est seulement d'enfermer quelqu'un qui a 16 ans, quelqu'un qui aurait 15 ans et demi ou 16 ans, de l'enfermer ? Ou c'est de l'aider à terminer une structure et de pouvoir entrer dans la vie et participer à la vie sociale.
Absolument. Alors, Ludovic Thoreau,
oui,
maire UDI.
Si on commence à mettre la majorité pour certaines choses et pas pour d'autres, ça rime à rien, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une réponse pénale. C'est-à-dire, vous disiez, faut ces jeunes-là soient quand même jugés. Mm-hmm. On ne peut pas laisser. Maintenant, il y a les travaux d'intérêt général. Vous savez ce qu'on disait. Mm-hmm. Vous savez qu'entre la peine qui est prononcée et l'arrivée qui peut être dans une mairie, on peut le faire n'importe où, c'est un an.
C'est-à-dire qu'ils disent... 18 mois en moyenne.
Voilà, donc ça, c'est pas possible. Ça, on doit l'accélérer. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que le jeune ne reçoive pas sa peine 2 ans après, parce que pendant 2 ans, il va faire des bêtises. Il faut qu'il l'ait très rapidement. Il faut, même si cette peine ne peut pas être celle des adultes, parce que d'abord, c'est un enfant, ou alors on change l'âge de l'enfant, comme vous disiez tout à l'heure, et on le descend. Néanmoins, il faut qu'il y ait une peine. Parce que c'est des grands gaillards qui ont fait des bêtises, d'accord ? Et des vraies peines, comme vous le dites, dans des centres fermés, peut-être de rééducation, de choses comme ça, de réapprendre la vie, mais c'est aussi d'envoyer ces jeunes dans des mairies comme la mienne, et moi je le prendrai avec moi pour faire les espaces verts ou autre chose, et ils retrouvent un autre environnement. Il va voir qu'on peut vivre différemment. On peut vivre tous ensemble. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais ce temps, comme vous disiez, 18 mois, n'est pas possible. C'est plus le même garçon.
Alors, je voudrais juste dire que c'est très important ce qui vient d'être dit par M. Le Maire. Juste, si vous êtes une collectivité publique ou même une entreprise privée, parce qu'on a aussi voté cette réforme, signalez-vous auprès des tribunaux et des procureurs. Mettez des heures de tige à disposition, parce que parfois, les procureurs en manquent.
Vous faites bien de le dire, parce que je pensais, monsieur le maire, en vous écoutant, vous appelez finalement à ce qu'on vous envoie quelqu'un qui soit conseillé. Le problème, c'est que...
Et vous en avez, des tiges ?
Les magistrats ne trouvent pas.
Maître Leborgne, attendez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps.
Donc, si vous êtes une structure publique ou privée et que vous êtes prêt à participer à la rééducation collective de nos jeunes, signalez-le.
Monsieur Taureau, allez-y.
J'ai dit tout simplement qu'il y a souvent un turnover chez les maires. Et il faut que l'État vienne vers les maires. Parce que souvent, les gens, on n'est pas au courant. Mais bien sûr que moi, je vais les prendre. Donc moi, je me suis mis volontaire. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais je vais les prendre, bien sûr. Parce que, alors, il faut savoir aussi quel jeune.
Vous êtes en Seine-Saint-Denis, je rappelle.
Oui, je suis en Seine-Saint-Denis, à Coubron. Donc, si vous voulez, il y a aussi un tri à faire avec. Vous n'allez pas mettre des gens trop dangereux qui pourraient contaminer les autres. Il faut juste qu'à cet âge-là, généralement, on peut récupérer.
Oui.
D'accord ? Mais on peut peut-être des fois pas. Il y a d'autres peines à apprendre. Mais il faut absolument que l'État vienne vers nous, vers le préfet, le procureur, en disant voilà, monsieur le maire, dès qu'il a son mandat, nous avons la possibilité. Mais néanmoins, il y aura quand même ces 18 mois. Et là, il faut absolument les raccourcir.
Okay. C'est l'énervieux du Parti Socialiste.
Monsieur Bertrand, on devrait quand même rappeler qu'on est un des pays qui est l'un des plus sévères quand même en Europe concernant le droit pénal des mineurs. Aujourd'hui, à 13 ans en France, vous pouvez être incarcéré dans les cas graves. Donc, il y a des centres éducatifs fermés. Effectivement, il n'y en a pas assez. Les travailleurs sociaux qui sont embauchés aussi dans ces centres éducatifs manquent de moyens. Les personnels ne sont pas suffisamment qualifiés. Donc, il y a évidemment tout un problème d'investissement dans ces structures de prise en charge et de réinsertion, d'accompagnement. Et il y a aussi la question des familles. Parce que ces mineurs, ces jeunes, ils s'inscrivent quand même dans un cadre familial. Ils ont des repères, normalement, parentaux, qui sont censés leur donner les limites et s'intégrer dans la société, leur permettre de s'intégrer. Donc, c'est important.
C'est
une dimension du soutien aussi à la parentalité et d'une prise en charge globale du jeune dans le système dans lequel il évolue aussi. Parce que d'où viennent ces jeunes, la plupart du temps, qui sont mis face à la justice ? C'est des jeunes qui proviennent des quartiers prioritaires. Vous avez deux fois plus de chances de ne pas trouver de boulot à la sortie de vos études, si vous avez la chance de faire des études. En fonction de la consonance de votre nom ou de votre prénom, vous avez moins de chances d'être embauché. Donc, il y a beaucoup de problématiques sociales aussi qui sont à prendre en compte dans le destin de ces jeunes qui sont mis face à la justice. Évidemment, une fois qu'ils sont confrontés à la justice, il faut qu'ils répondent de leurs actes à travers des peines adaptées à leur âge.
Vous êtes en train de nous présenter un certain nombre de circonstances, d'ailleurs avec justesse, qui correspondent grosso modo aux causes de la délinquance et notamment de la délinquance des mineurs. Ça n'en fait pas la réponse, si vous voulez. Parce que jusqu'à présent, un certain nombre de nos concitoyens considèrent que cette sorte de déterminisme sociologique qui conduirait à la délinquance n'explique pas tout et qu'il faut néanmoins à la fois une réponse de sanction et une réponse de rééducation. Et je crois que c'est vrai, parce que quand vous nous dites l'image parentale, si c'est pas universel, l'aide et le modèle parental chez nombre de délinquants mineurs, il n'est pas extraordinaire. Il faut donc le remplacer par un autre. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une structure de rééducation simple et pas chère, l'armée, est une réponse. Parce que les centres dont vous parlez, Laurence, qui sont très bien, coûtent très cher. Il y a plus de personnel de jeunes qui sont dans ces centres-là, ce qui est extraordinairement cher. On pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus rustique et d'aussi efficace à l'armée.
Oui, alors, maître, monsieur Taureau, vous avez monsieur le maire.
J'ai fait mon service militaire, vous voyez,
moi aussi.
On a, à ce moment-là, on est jeunes, on se voit tous ensemble, des gens qui viennent de partout, très différents. C'était un lieu extraordinaire pour détecter ceux qui avaient des problèmes et pour apprendre la vie en collectivité. C'est pour moi...
On ne peut pas revenir en arrière.
Mais je ne dis pas... On parlait de Madame Père. Ce que vous évoquez un peu, c'était un bon moyen d'être tous ensemble et de dire, voilà, on peut en sortir, on donnait les permis de construire, de conduire, pardon, de même chose, pas de construire.
Mais on peut construire aussi des centres. Oui, un tout petit mot pour terminer, Seigneur.
Mais vous placez des jeunes pendant 2 semaines en dehors de leur cadre de vie, c'est pas ça qui va les remettre sur le droit chemin.
Si non, mais ça peut les aider aussi.
On peut acquérir un certain nombre de valeurs, etc. Mais ça s'inscrit pas sur la durée, parce que pourquoi je vous parlais de la famille?
Pas tous en même temps. Seigneur, vous aviez la parole.
Bien sûr, il y a des séjours, ce qu'on appelle de rupture aussi, qui permettent de sortir le jeune et de l'emmener avec des éducateurs très loin, même à l'étranger pendant quelques semaines. Mais c'est quand même une partie du problème. Je parle du cadre familial. Pourquoi? Parce que ce qu'on a entendu quand même récemment dans le débat public, c'est par exemple couper les allocations quand vous avez un jeune qui ne va pas en cours.
Allez,
ça, ce n'est pas acceptable.
C'est un débat passionnant. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans Punchline, parce que la campagne présidentielle ne fait que commencer. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, soirée spéciale Ligue des Champions sur Europe 1, présentée par Lionel Rousseau, avec ce match FC Bruges Paris Saint-Germain. Imaginez-vous que Messi, Neymar, Mbappé seront ensemble sur le terrain ce soir. Il y a du lourd dans l'air. Allez, bonne soirée à vous sur Europe 1. À demain 18h pour Punchline.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.